Le festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui débute dans un peu plus de 2 semaines, c'est en fin de compte 2 festivals en un. Un volet traditionnel avec des concerts dans la ville d'Aix-en-Provence et puis un autre, le volet en partage placé sous le signe de la transmission, de la solidarité et un volet qui se décline également dans toute la région. Parmi les musiciens engagés dans ce volet en partage, l'altiste Léa Hennino et le pianiste Théo Fouchenret, ils sont tous les deux avec nous ce soir. Bonsoir.
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 Cette notion de solidarité, d'accessibilité également à la musique, puisque le festival va à la rencontre de publics éloignés, de publics empêchés, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous guide dans votre démarche de musicien qui est importante ?
Tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est des sujets qui sont sur la table depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc forcément, ça fait partie de nos missions, je pense, dès l'entrée dans la professionnalisation. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on est chacun investi, je pense, pour rendre la musique accessible à tous, aller à la rencontre des publics dans les territoires. Donc là, il y a Musique en Partage au Festival de Pâques. Mais je pense aussi au Concert de Poche, dirigé par la pianiste Gisèle Magnan, qui traite ces sujets-là au quotidien. Je pense aussi à Jean-Claude Casadesus qu'on a vu récemment à la cérémonie des trophées Radio Classique, qui parle toujours très très bien de ces sujets-là.
Qui est un peu l'un des initiateurs d'ailleurs de ce genre de projet.
Qui rappelait avec ces notions de solidarité, de partage, le rôle et les missions du musicien, de l'artiste en général dans la société. Et il disait que nos missions, c'est évidemment la transmission, les émotions, parce que c'est vrai qu'un public qui soit favorisé ou défavorisé, à la fin, on est tous égaux dans la réception de ces émotions. Et nous, les musiciens, on touche du doigt les plus grands génies. On comprend beaucoup de chefs-d'œuvre. On a cette chance parce qu'on a été éduqués, on a travaillé tout ça. Donc c'est important qu'on retransmette tout ça à tous les publics parce qu'ils peuvent souvent ils pensent que c'est pas fait pour eux, qu'ils ont pas les clés. Mais en fait, il y a pas besoin d'avoir les clés. L'émotion, elle est pour tous. Et il faut vraiment avoir la curiosité de venir au concert. Alors parfois, ils peuvent pas forcément. Ils sont empêchés géographiquement ou
il faut aller vers eux.
Voilà, exactement. Donc c'est important de se déplacer dans les territoires, d'aller dans des lieux qui ne sont pas forcément faits pour les concerts, pour aller toucher le public au plus proche.
Vous avez l'habitude aussi, Théo, d'aller jouer dans des lieux éloignés ?
Oui, j'ai l'habitude et puis même j'y tiens beaucoup. C'est quelque chose dont je suis particulièrement demandeur d'ailleurs, parce que aussi je suis un fervent croyant de ces actions. Je pense effectivement qu'il y a des zones dans lesquelles la musique ne retentit pas très souvent et j'aime voir le naturel des réactions des gens qui écoutent, des réactions très sincères. Et puis je crois aussi au fait que même si dans l'assistance tout le monde n'est pas forcément ému, enfin il peut y avoir toutes les réactions possibles, je crois que même si ça va toucher une personne, aussi jeune soit-elle d'ailleurs, c'est mieux. L'objectif est accompli, voilà.
C'est vrai, même une seule personne. Ouais. Alors, aller à la rencontre de ce nouveau public, essayer de toucher un public qui ne peut pas forcément aller au concert, c'est aussi quelque part leur proposer d'autres formats, notamment quand on s'adresse au jeune public, ça permet aussi de développer sa créativité. Je pense à ce spectacle autour de Don Quichotte que vous avez imaginé, Léa Hennino avec Yann Le Vieux-Noir.
Oui, tout à fait. Alors, nous, on est aussi très sensibles à la pluridisciplinarité quand on essaye d'innover dans les concerts classiques. Donc, dans le cas de Don Quichotte, on a imaginé un spectacle avec des illustrations, les très belles encres de Cécile Pruvot. Il y a aussi un comédien et c'est vrai que ça permet aussi au public qui... Tout le monde n'a pas la même sensibilité, donc peut-être que certains vont être plus réceptifs aux illustrations, d'autres à la musique, d'autres à la narration guidée par le comédien. Et ça nous a permis aussi d'innover dans la mobilité du projet, dans le sens où l'œuvre originale de Strauss demande normalement un orchestre symphonique énorme, il y a plus de 80 musiciens sur scène, donc ça aurait été compliqué de transporter le spectacle avec autant de monde. Donc on a un petit peu réfléchi et on a réduit du coup l'œuvre originale à 12 musiciens. Ce qui nous permet de le transporter plus facilement. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on est beaucoup animés par la musique de chambre. C'est dans ça qu'on s'investit le plus. Donc, réduire une telle œuvre à 12 musiciens, ça permet d'avoir des interactions sur scène qui sont beaucoup plus libres, beaucoup plus intimes. Et je pense que le public est sensible à ça aussi et redécouvre l'œuvre différemment.
Thank you.
Un petit extrait de l'arrangement du Don Quichotte de Richard Strauss pour 12 musiciens, réalisé par Léa Hénino et Yann Levionnois, que l'on écoutait ici en compagnie d'autres musiciens, parmi lesquels
Amaury Viduvier,
voilà, enfin, le
quintet
Ouranos,
voilà, Manon Galli, Guillaume Bellhomme.
Voilà. Et c'est un spectacle qui est donné avec récitant et qui a été donné notamment l'année dernière au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Dans le public, l'année dernière à Aix, il y avait entre autres des élèves de la Petite Académie, qui d'ailleurs nous avait fait un compte-rendu sur Radio Classique, très pertinent. Petite Académie, dont vous êtes l'un des parrains, Théo Fouchendré. Vous aviez assisté avec eux à ce spectacle?
Oui, oui, j'étais là, c'était à la Friche Belle de Mai, à Marseille, ouais. Je me souviens bien, et c'était absolument magnifique. Effectivement, beaucoup d'éléments extra-musicaux auxquels se raccrocher, et je crois que les enfants y étaient très sensibles. Et leur retour était plein d'enthousiasme. C'était vraiment un spectacle de très haut niveau, donc c'est un très beau souvenir. Je crois.
Ah oui, ils ont adoré, ouais. Hein, je me souviens. Alors, cette Petite Académie, vous en êtes l'un des parrains, avec Yann Levionnois et Eva Zavaro. Vous avez vécu la première édition, c'est reparti pour la seconde dans quelques jours. Quels sont les profils de ces jeunes musiciens, de ces jeunes académiciens? Comment avez-vous vécu cette première édition avec eux?
Ah, c'était le recrutement, entre guillemets, n'est pas fait sur la performance, mais plus sur le profil de l'élève, son envie, sa disponibilité aussi, parce que c'est assez lourd de passer
une
semaine.
Ils avaient des emplois du temps bien chargés, je me
souviens.
Voilà,
c'est ça. Ils assistent à énormément de concerts. Ils ont de la pratique individuelle avec nous très régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Il y a les actions de Solène Roy, Thierry Weber aussi, qui leur permettent d'aborder la musique sur un plan aussi plus ludique, d'expérimenter le partage, la pratique collective. Et je crois aussi, chose très importante, qu'ils peuvent avoir accès à tous les corps de métier aussi qui font qu'un festival peut fonctionner, par exemple. Et donc, voir tous les métiers qui gravitent autour de la musique aussi. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement important.
Ils profitent d'ateliers, ils profitent de concerts. Donc, on les forme quelque part à devenir des spectateurs de concerts. Est-ce que c'est important de leur donner quelques clés pour profiter au mieux d'un concert? Peut-être qu'on est un peu intimidé au début, surtout quand on habite à la campagne et qu'on n'a pas l'habitude d'aller au concert parce qu'il n'y a pas de salle à proximité. Est-ce que c'est important d'être aussi, de les préparer en amont?
Oui, bien sûr. De donner peut-être des clés d'écoute ou juste de leur dire de pas se mettre de pression, parce que ouais. C'est vrai que ce soit le jeune public ou le public plus âgé, souvent j'entends qu'ils n'ont pas écouté tout le concert avec la même intensité et que finalement sur une heure de concert, ils ont peut-être écouté vraiment avec intensité que, je sais pas, 10 minutes, et ils regrettent, ils s'en veulent, ils culpabilisent, disent j'ai pas compris, etc. Ouais. Alors que pas du tout, au final je pense que c'est très humain, et même nous si, qui sommes professionnels, si on écoute un concert, on va pas tout écouter de la même intensité, ouais. Et on a besoin de s'évader aussi.
Oui, je pense que c'est toujours naturel que l'esprit soit pas concentré à 1000%. Moi-même, quand j'étais jeune, je crois pas que j'écoutais tout à 100%. Et même encore aujourd'hui, il m'arrive de... Et je crois que c'est toujours important, même quand on est un artiste sur scène, de savoir que dans le public, il y a des gens qui rentrent du travail, qui sont pas disponibles forcément à 100%. Et c'est pas grave, en fait. On est là, même sur les 10 minutes où ils vont être attentifs, pour qu'ils soient heureux et qu'ils vivent quelque chose.
Ouais. C'est comme un enfant qu'on emmène au concert et qui peut s'endormir sur nos genoux au bout d'un quart d'heure, mais ce quart d'heure, il est précieux.
Voilà. C'est bon signe.
Alors, vous donnerez également des concerts, Théo Fouchendré, avec les deux autres parrains et marraines de la Petite Académie, donc Eva Zavaro et Yann Levionnois. Vous serez en région les 8 et 9 avril, donc vous allez jouer dans des petites salles. Vous serez notamment dans la salle des Vignerons de Nant-les-Pins, où j'imagine on n'a pas l'habitude d'entendre la musique. Il faut une certaine faculté d'adaptation pour ces lieux aussi, qui n'ont pas forcément l'acoustique propice aux concerts.
Tout à fait, oui, oui. L'adaptation, en même temps, c'est le cœur de mon métier. Moi qui suis pianiste, un nouvel instrument par concert. Mais oui, bien sûr, l'adaptation, le choix du répertoire aussi. Je pense qu'il y aura aussi un temps, ce qui est même sûr, d'échange avec le public. J'ai souvenir que l'année dernière, en tout cas, ça s'était très bien passé. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de questions et on avait dû d'ailleurs arrêter faute de temps. Mais voilà, j'aime ce contact direct avec le public.
Alors, on va vous écouter avec d'autres partenaires de trio, avec votre frère Pierre Fouché-André, avec le violoncelliste François Salk, un extrait d'un récent volume de cette magnifique intégrale de la musique de chambre de Schumann. Et j'ai choisi l'une des Fantaisies Stücke opus 88, qui ne compte pas parmi les pièces les plus connues de Schumann, mais c'est un cycle magnifique qu'on devrait jouer plus souvent.
Ah, je suis bien d'accord. Après, Schumann, des fois, il y a des petites... choses comme ça, on les connaît pas et je l'explique pas beaucoup parce que je trouve que c'est des merveilles absolues. On a enregistré ça et on est content que les gens puissent le découvrir.
Fantaisies Stücke opus 88 de Schumann par Pierre Fouché-André, François Salk et Théo Fouché-André qui est avec nous ce soir sur Radio Classique en compagnie également de Léa et Nino. Venus nous parler tous les deux de ce volet en partage du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, un festival qui débutera dans quelques jours. Alors parmi les moments forts de ce volet en partage, il y aura ce concert le 29 mars, une journée entière d'ailleurs le 29 mars, qui se tiendra au Camp des Milles, à côté d'Aix-en-Provence, à laquelle vous participerez. Léa et Nino, c'est un lieu chargé de mémoire, c'est le seul grand camp français d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu un site mémorial, et j'encourage tout le monde à aller visiter ce site. Ce sont des émotions très fortes. On en sort bouleversé. Dans quelle mesure, Léa et Nino, un lieu et tous les souvenirs qu'il peut contenir, peut-il influencer, entrer en résonance avec votre interprétation, d'autant que vous allez jouer des musiques écrites dans des camps de concentration?
Exactement. Le troisième quatuor de Victor Ullmann, il l'a composé en 1943, alors qu'il était interné donc au camp de Térésine. Donc, de jouer cette musique en connaissant cette histoire, sachant qu'il a été déporté à Auschwitz un an plus tard et qu'il est mort le jour même de son arrivée à Auschwitz. Ça va être très intense, je pense, émotionnellement, autant pour nous, le quatuor Fidelio, que le public. Je pense que les silences, notamment dans cette musique, vont pas avoir la même saveur, le même sens. On va se préparer à ça parce que.
Et vous allez faire la visite avant ou est-ce que ce sera trop fort peut-être?
Bah, j'hésite du coup. Ouais. Je sais pas trop. Peut-être il faudra qu'on soit très concentré sur ce qu'on a à faire et peut-être qu'on fera la visite après.
Mais beaucoup de spectateurs font la visite avant et je peux vous dire par expérience, quand on fait la visite avant et qu'on écoute un concert dans ce lieu, on est submergé d'émotions.
Ouais, j'imagine.
D'autant que les œuvres nous renvoient
directement à toute cette histoire.
Et la musique de Victor Ullmann, comment la décririez-vous?
Bah, c'est une découverte pour moi. Voilà, on a découvert ce compositeur grâce à Renaud qui nous a invités.
Renaud Capuçon.
Ouais, tout à fait, sur ce concert. On adore. Alors, c'est extrêmement bien écrit pour le quatuor. Il a étudié avec Schoenberg, mais sur d'autres aspects, ça me fait aussi penser à Shostakovich parce qu'on retrouve ce cynisme, ce côté grinçant. chant de danse un peu macabre où résonne l'oppression pas loin derrière. Mmh. Donc c'est à la fois très cynique, très marqué et en même temps vibrant de lumière et d'espoir aussi, je trouve. Ça va être intense.
Le 29 mars, donc au Camp des Milles, près d'Aix-en-Provence. Et puis vous donnerez d'autres concerts en région, toujours avec le quatuor Fidelio. Vous serez le 30 mars à Cavaillon avec Gérard Cosset. Et puis vous participerez à un concert pour les familles. Alors on évoquait tout à l'heure le Don Quichotte de Richard Strauss qui a été donné l'année dernière. Cette année, ce sera la symphonie pastorale de Beethoven avec des illustrations de Grégoire Pont. La symphonie pastorale version sextuor à cordes. C'est exaltant à jouer cette musique.
Ah, complètement. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai jouée que dans cette version en sextuor à cordes. Donc j'aimerais bien un jour la jouer aussi dans sa version originale. Ouais. C'est une très belle transcription en fait qui a été faite par un compositeur contemporain de Beethoven. Et je crois même qu'il l'a fait très peu de temps après la première de la symphonie. Elle fonctionne très bien, c'est-à-dire que la volonté de Beethoven de décrire son amour pour la nature est vraiment conservée ici dans cette version en sextuor à cordes. Moi, il n'y a rien qui me manque vraiment par rapport à l'original. Donc c'est vraiment une très belle transcription. Et ce qui est très intéressant avec les illustrations de Grégoire, c'est que voilà, Beethoven donne sa vision, son amour de la nature dans la symphonie, et Grégoire a fait un peu un parallèle avec son propre amour de la nature, en essayant aussi de sensibiliser le public au danger de son exploitation par l'homme et de la destruction de la nature. Donc il a un peu revisité en fait la pastorale à travers ses illustrations, tableau après tableau. Voilà, il utilise le quatrième mouvement, l'orage, justement pour exprimer l'arrivée de l'homme. Donc c'est très bien fait, c'est très poétique et en même temps voilà, ça sensibilise le public. Donc
voilà, et on va en écouter un petit extrait puisque vous l'avez déjà donné avec, entre autres, le quatuor Fidelio, un quatuor qui a maintenant 2 ans et demi, 3 ans.
Oui, 3 ans, ouais.
Et alors, le premier disque
Alors là, on va enregistrer pour le label Voila Records d'Olivier Lalanne, qui se penche sur les compositeurs oubliés. Donc, je ne peux pas dévoiler encore le compositeur parce que ça paraîtra dans un an, il me semble. Mais c'est hyper exaltant comme projet. Ça nous tient à cœur, voilà, évidemment, de jouer le grand répertoire du quatuor, mais aussi d'aller fouiller, que ce soit du côté des compositrices ou des compositeurs oubliés ou encore à découvrir.
Oui, puisque vous fouillez beaucoup du côté des compositrices avec Héloïse Luzzatti, la cité des compositrices. Et puis, on pourra vous retrouver, Théo Fouchendré, également dans la programmation plus classique du Festival de Pâques. Vous serez en concert le 2 avril, c'est ça, avec votre frère, Pierre.
Tout à fait.
Autour de quel répertoire
Ce sera justement une pièce méconnue de Schumann, qui est sa 3e sonate.
Oui, qu'on joue rarement, mais qui est merveilleuse.
Ouais, je vous m'ôtez les mots. Le rondeau brillant de Schubert et la première sonate de Bartok.
Ah ouais, voilà. Bartok, on a des souvenirs très forts de vous avec votre frère dans le répertoire de Bartok. Merci beaucoup Léa et Nino et Théo Fouchendré d'avoir passé un moment avec nous, et rendez-vous dans quelques jours à Aix-en-Provence et dans sa région. Merci,
à bientôt.